Bon, nous allons reprendre cette journée d'études et de réflexion. Vous aurez le temps de regarder les livres après, je laisserai la salle un peu ouverte. C'est vrai qu'on a fait une sélection d'ouvrages. C'est intéressant peut-être de prendre des... J'attends que les gens s'assoient. Nous allons finir la journée, comme nous avons fait ce programme particulier avec Pascal Duris, sur le néo-créationnisme en Europe. Et on n'a pas parlé de créationnisme. Pascal, vous avez bien expliqué ce matin que c'était ciblé, disons, historiquement. Il y a datation pour le créationnisme. Donc on a appelé le titre, avec l'accord de Cyril, le néo-créationnisme en Europe. Donc Cyril Baudouin, vous avez une formation d'ingénieur physicien. Vous avez travaillé en tant qu'ingénieur dans un laboratoire de recherche pour le développement instrumental pour l'astrophysique. Vous êtes réorienté vers le journalisme et la connaissance, communication scientifique, pardon. Vous avez travaillé notamment pour le magazine Science et Vie et en tant que journaliste scientifique. Aujourd'hui, vous travaillez pour un laboratoire CNRS de recherche en astrophysique en tant que chargé de la diffusion de la culture scientifique. Vous avez publié en mai 2008 avec Olivier Brosseau, j'ai le livre dans les mains, « Les créationnismes, une menace pour la société française » d'édition Syllabs. Je voulais vous demander... Pour un astrophysicien qui s'intéresse en effet au créationnisme, c'est aussi une question intéressante. Et puis je vous remercie pour votre ouvrage, je l'ai lu, je trouve que c'est une très très belle synthèse de ce dont on va parler là. Et voilà, on va vous écouter.
Je vous remercie. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier aussi l'espace Pierre Mendès France pour organiser cette journée. Alors, comme vous l'avez dit, j'ai publié un livre avec Olivier Brosseau sur le sujet. Et c'est vrai que ça fait 3 ans et demi maintenant qu'on travaille sur ce sujet et sur les créationnismes. Et ça faisait partie de nos objectifs de parler de ça au grand public et non pas seulement aux scientifiques et en particulier aux biologistes. Et également aux enseignants qui peuvent être directement confrontés de plus en plus à des attaques diverses et variées des créationnistes. Alors ce matin, vous avez pu entendre parler des mots créationnisme, néo-créationnisme, intelligent design, mais c'est une notion qu'on attribue un peu facilement et un peu souvent aux États-Unis. Donc là, la pertinence de ce sujet, le néo-créationnisme en Europe, je voulais l'illustrer par... Un fait politique qui s'est déroulé il y a peu de temps, puisque ça s'est passé en octobre 2007. Le Conseil de l'Europe, pour faire court, est une institution politique composée de 47 États, donc des États européens au sens large, pas uniquement l'Union européenne. Pour faire court, comme je disais, qui s'occupe essentiellement des questions de droits de l'homme et de faire avancer la démocratie. Et donc, ce Conseil de l'Europe s'est intéressé plus particulièrement au danger du créationnisme dans l'éducation, qui est un rapport qui a notamment été rédigé par un ancien député français socialiste, Guy Langagne, et que vous pouvez retrouver sur Internet si vous tapez le nom du rapport. Alors, que disait ce rapport ? Alors, le Conseil de l'Europe invite les instances éducatives des États membres à promouvoir le savoir scientifique et l'enseignement de l'évolution, et à s'opposer à toutes les tentatives de présentation du créationnisme comme discipline scientifique. Donc, on voit ici que le créationnisme est devenu une véritable question, une question politique, à l'échelle des États européens, en tout cas des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Et ils vont même plus loin en disant que nous sommes en présence d'une montée en puissance de modes de pensée qui, pour mieux imposer certains dogmes religieux, s'attaquent au cœur même des connaissances que nous avons patiemment accumulées sur la nature, l'évolution, nos origines, notre place dans l'univers. Alors, ma présentation s'articulera déjà sur qu'est-ce que c'est créationnisme, et donc j'expliquerai aussi le mot néo-créationnisme qui est plus particulièrement attribué à un créationnisme qui accepte l'évolution. D'où ça vient, le créationnisme ? On est obligé d'aller, d'aller faire un petit tour du côté des États-Unis et de faire un bref rappel de ce qu'on a appelé les trois croisades créationnistes durant le XXe siècle. En Europe, qu'est-ce qui se passe ? Quelques illustrations des offensives créationnistes au niveau politique et en France. Et enfin, je terminerai en donnant quelques exemples bien concrets d'attaques créationnistes en France vis-à-vis de l'enseignement en particulier. Alors, les créationnismes, pourquoi les créationnismes ? Alors, on en a parlé ce matin déjà, Pascal Duris l'a évoqué. Le créationnisme, historiquement, est associé à la doctrine de la création. Alors, on retrouve des mythes de la création un peu dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, mais bon, ici, on va parler plus particulièrement de la création, de la doctrine de la création associée aux trois grands monothéismes. Pour rappel, christianisme, judaïsme et islam, cette doctrine stipule que l'univers, notre planète et ainsi que les êtres vivants qui sont, tous les êtres vivants qui sont sur cette planète, ont été créés à partir du néant par une puissance divine, quel que soit le nom de cette puissance ou sa forme, ou peu importe. Le mot de créationnisme apparaît à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, au sein de mouvements anti-évolutionnistes et qui se développaient dans des églises évangéliques nord-américaines, et en particulier dans ce qu'on appelle la Bible Belt, la ceinture biblique, qui est situé dans les États du sud des États-Unis, qui sont particulièrement croyants. Alors, pourquoi créationnisme avec un S ? Donc, le créationnisme tel qu'il est souvent défini dans les médias s'arrête au sens étroit, qu'on appelle le sens littéraliste, qui est donc associé à... la doctrine de la création telle que je l'ai explicité tout à l'heure, avec une date de création qui varie selon les interprétations des écritures, qui peut aller de 6000 à 10000 ans, enfin bon, peu importe, l'essentiel étant que les êtres vivants ont tous été créés à partir du néant par... je change de nom. Les littéralistes étant directement associés à une interprétation justement littérale des écritures. Mais on se rend très vite compte que lorsqu'on étudie ces différents mouvements, ils se sont modifiés, ils se sont adaptés, c'est le cas de le dire, à toutes les évolutions culturelles, l'évolution du savoir scientifique, jusqu'à très récemment, début des années 90, accepter l'évolution, et dans ce cas-là, le sens étroit lié au sens littéraliste paraît un peu étriqué, et c'est donc pourquoi je préfère donner une définition un peu plus large qui définit les créationnistes comme étant ceux qui, à un moment quelconque de leur argumentation, font appel à une transcendance pour expliquer le monde naturel et son origine. Alors, donc, les mouvements créationnistes, les premiers mouvements créationnistes se sont développés dans le sud des États-Unis et en particulier dans le Tennessee, et vont aller jusqu'à faire adopter une loi anti-évolutionniste, anti-enseignement de l'évolution. Alors, cette loi appelée loi Butler, donc qui a été adoptée dans l'État du Tennessee dans les années 20, interdit à tout enseignant d'université, d'école normale ou de toute autre école publique financée entièrement ou partiellement par les fonds de l'État, d'enseigner une théorie qui nie l'histoire de la création divine de l'homme, telle qu'elle est enseignée dans la Bible, et qui prétend que l'homme descend d'un ordre inférieur d'animaux. Donc on voit bien ici ce qui gênait les créationnistes littéralistes à l'époque et ce qui les dérange toujours aujourd'hui, comme on a pu l'entendre au cours de la journée, c'est réellement le statut de l'homme. Alors, pour comprendre, avant d'en arriver directement aux trois croisades créationnistes, il y a quand même quelques préalables à connaître sur la société américaine pour comprendre comment se sont forgées ces croisades. Tout d'abord, le système éducatif américain est décentralisé, contrairement à ce qui peut se passer en France, par exemple, où les écoles publiques, et en particulier les programmes qui sont dispensés dans les écoles, dépendent directement des school boards, qui sont donc des conseils scolaires, qui sont élus localement et qui comprennent des enseignants et des parents d'élèves. Alors, il faut bien comprendre que si localement, dans un comté, ce qui pourrait correspondre en gros à nos académies, si dans un comté des parents sont pour l'enseignement du créationnisme, ce qui s'est passé donc tout au long du XXe siècle, ils vont se retrouver majoritaires et donc les éditeurs de programmes scolaires ne vont pas avoir le choix de mettre autre chose que du créationnisme dans les livres des écoles. Et l'autre préalable, c'est le premier amendement de la Constitution américaine qui stipule que le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ce qui définit en quelque sorte une laïcité à l'américaine et qui parfois est un peu plus complexe que chez nous. Alors, le procès du singe, c'est le premier procès donc, qui a lieu suite à l'adoption de cette loi Butler dans le Tennessee, dans l'État du Tennessee, qui va avoir lieu donc en 1925. Un jeune enseignant va volontairement se faire inculper pour avoir enseigné la théorie de l'évolution et donc avoir été à l'encontre de cette loi. Il était soutenu par la plus grosse association civique, de droit civique américaine. Finalement, ils vont perdre ce procès. Alors, il faut savoir que c'est un des procès les plus médiatisés aux États-Unis et qui reste aujourd'hui dans la mémoire collective. Tous les Américains ont entendu parler du procès du singe qui avait vu... Des centaines de journalistes affluaient vers la petite ville de Dayton dans le Tennessee, où on a quelques images, notamment celles que je montrais au début. Là, par exemple, on voit des partisans anti-évolutionnistes. Et donc, ce procès va finalement être perdu par cet enseignant qui s'appelle Thomas Copps. Victoire juridique des créationnistes. Il apparaît que dans l'opinion publique, les créationnistes ont plutôt été ridiculisés. Mais ça n'empêchera pas cette loi d'être considérée jusqu'en 1968. C'est seulement en 1968 qu'elle a été déclarée anticonstitutionnelle par la Cour suprême. Alors ensuite, les créationnistes vont tirer profit de cette... tirer la leçon de cette défaite, 1925. Et si au cours des années 40, 50, 60, la théorie de l'évolution est peu à peu intégrée dans les programmes scolaires, ça n'empêche pas les créationnistes de se rassembler à nouveau et d'essayer d'adopter une nouvelle tactique. Et ayant vu que le fait d'enseigner directement ce qui est écrit dans la Bible, la doctrine de la création, et de vouloir interdire la théorie de l'évolution, la théorie darwinienne de l'évolution, n'était pas possible, ils ont décidé de se placer sur le terrain de la science et de montrer qu'ils faisaient de la science. Alors c'est ce qu'on a appelé la creation science, le créationnisme scientifique, qui va donner lieu à un premier procès, de la même manière que ce qui s'était passé en 1925, procès dans l'Arkansas cette fois-ci, procès très médiatique une nouvelle fois en 1981. Et le juge fédéral, une nouvelle fois, déclare anticonstitutionnel, donc contraire au premier amendement que j'ai expliqué tout à l'heure, et donc interdire ce qu'ils appellent le balance treatment, qui est le traitement équitable entre théorie darwinienne de l'évolution et créationnisme scientifique. Alors, ça n'empêchera pas des procès de se succéder dans 26 États durant plus de 6 ans, jusqu'à un jugement définitif de la Cour suprême qui, cette fois, tranche une bonne fois pour toutes et qui dit que c'est définitivement anticonstitutionnel. Suite à cette nouvelle défaite, réadaptation des créationnistes, et cette fois-ci, l'idée est de ne plus nommer les termes de Dieu ou de création dans le discours. Alors, ce mouvement, donc, qu'on appelle dessin intelligent, naît officiellement, si on peut dire, en 1991, avec un professeur de droit à Berkeley, Philip Johnson, qui publie Darwin on Trial, Darwin en procès, un ouvrage qui devient rapidement un best-seller et dans lequel il explique les limites actuelles de la théorie darwinienne de l'évolution et en quoi l'hypothèse d'un designer, donc d'un grand horloger, d'un architecte, peu importe le nom qu'on lui donne, serait plus à même d'expliquer la diversité du vivant qu'on voit aujourd'hui. Alors, ce dessin intelligent qui se présente comme quelque chose de réellement moderne, en fait, c'est absolument pas le cas, puisque c'est une réactualisation en fait de la théologie naturelle du prêtre anglican William Paley, qui avait formulé son analogie de l'horloger. Alors, l'analogie de l'horloger, c'est il trouve une montre par terre et remarque que chacune des pièces remplit une fonction bien particulière et que chacune de ces pièces sont parfaitement adaptées à cette fonction et que tout s'imbrique. Et donc, il en déduit l'existence d'un horloger. Il transpose cette métaphore au vivant, et en observant ces merveilleuses complexités, ces merveilleuses adaptations de toutes les espèces vivantes, en déduit également l'existence d'un horloger, d'un designer. Mais cette fois, le dessin intelligent ne se cantonne pas à simplement observer. Le domaine macroscopique, enfin ce qu'on voit, mais va aller chercher, triturer la biologie moléculaire et la biochimie, donc pour parler avec des termes scientifiques. Il s'avère que ce mouvement est soutenu, est un mouvement, donc vous l'avez compris, un mouvement pseudo-scientifique, mais c'est avant tout un mouvement politique qui est porté et soutenu par le Discovery Institute, qui est un think tank, donc difficilement traductible en français, mais une boîte à idées, on va dire, une boîte à idées conservatrice, dont le leader est Bruce Chapman, qui est un ancien de l'administration Reagan, ce qui en dit long sur leurs orientations politiques. Et ce Discovery Institute publie ce qu'ils appellent le Wedge Document, dans lequel il est dit, en parlant du dessin intelligent, le dessin intelligent est une théorie qui promet de renverser l'étouffante domination de la vision matérialiste du monde et de la remplacer par une science conforme aux convictions chrétiennes et théistes. Donc là, on se rend bien compte que ce mouvement-là n'est pas scientifique, mais a une réelle portée politique et qui mélange allègrement et même qui fait une synthèse entre science et religion. Alors, wedge document, wedge en anglais, ça veut dire coin. Le dessin intelligent étant le coin qu'ils enfoncent dans l'édifice matérialiste, comme ils le disent. Alors, c'est un mouvement politique qui est soutenu, qui a été soutenu officiellement par, par George Bush Jr. Ou dans une déclaration à des journalistes qui l'interrogeaient sur le sujet, avait bien expliqué que pour lui, tous les élèves devaient être on devait leur dispenser toutes les théories, on devait leur enseigner toutes les théories, c'est-à-dire à la fois la théorie darwinienne de l'évolution, mais également le dessin intelligent. Alors, cette troisième croisade créationniste s'est ouverte, en quelque sorte, par le procès de Dover, en Pennsylvanie, en 2005, fin 2005. Ce procès opposant le conseil scolaire, qui, donc, eux, souhaitaient proposer le dessin intelligent comme alternative en cours de biologie, comme alternative à la théorie darwinienne de l'évolution, à des parents d'élèves qui, eux-mêmes, étaient... anti-créationniste. Au final, le juge a tranché en faveur des parents et a déclaré une nouvelle fois que le dessin intelligent n'était que religion camouflée et que c'était donc contraire au premier amendement de la Constitution américaine. Pour finir cette partie brièvement, je voudrais dire que tous ces mouvements créationnistes et ces croisades créationnistes, ici je les ai présentés comme se succédant dans le temps, ça ne les empêche pas de coexister encore aujourd'hui. Tous ces mouvements coexistent et sont particulièrement actifs, donc le dessin intelligent, nous l'avons vu, mais également les créationnistes scientifiques, voire pour certains créationnistes littéralistes. On a l'exemple récent de Sarah Palin, donc, qui s'est exprimée sur la coexistence, selon elle, des dinosaures et des êtres humains il y a 6000 ans. Donc Sarah Palin, tout de même candidate à la vice-présidence républicaine américaine. Et également l'ouverture du musée de la création à l'été 2007, avec un budget énorme, hein, 27 millions de dollars, donc, ce qui montre à quel point ces structures ont des appuis financiers très importants. Un vaste complexe de cinéma dynamique, donc un peu comme ici au Futuroscope, dédié entièrement à la création. Et enfin, je terminerai par le fait que ces mouvements, derrière des attaques contre la théorie darwinienne de l'évolution, en fait, il faut bien comprendre que leurs objectifs sont véritablement politiques et on peut imaginer que si la nature est aussi parfaite qu'ils le prétendent et qu'elle a été créée par un créateur, il leur serait ensuite facile de justifier un certain nombre de lois contre des comportements qu'ils considèrent comme déviants. Je pense notamment à l'avortement, à la contraception, etc. Alors, en Europe, qu'est-ce qui se passe en Europe ? Alors, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a des musées créationnistes. Le premier musée créationniste européen a ouvert ses portes à Umeå en 1996, en Suède. Également un musée en Allemagne. Alors, je ne prononce pas le nom parce que c'est imprononçable, mais en français, ça s'appelle le Prémonde vivant. La traduction doit être un peu difficile, mais bon. Dans ce musée, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve ce qu'on trouve chez tous les créationnistes scientifiques et qu'on verra aussi par la suite avec l'Atlas de la création des créationnistes musulmans. L'idée étant de présenter un certain nombre de fossiles et de le comparer avec des espèces vivantes actuelles et de montrer que finalement c'est la même chose et que les espèces n'ont pas bougé. C'est donc purement du fixisme. Et en Allemagne, un projet pharaonique, pour le coup, Genesis Land, un énorme parc d'attractions donc qui serait situé près de la Suisse. Aux dernières nouvelles, ça devait être fait en 2008, mais bon, ils n'ont toujours pas assez de financement, d'après ce que j'ai compris. C'est porté par une structure suisse qui s'appelle ProGenesis, une petite erreur ici, qui se définit comme étant une organisation supraconfessionnelle œuvrant pour la réhabilitation de la Genèse, donc véritablement du créationnisme scientifique presque littéraliste. Mais il y a également des prises de position politiques contre la théorie darwinienne de l'évolution, et pas seulement des musées ou des choses qui pourraient paraître isolées. Alors, bon, je les ai séparées en deux catégories. D'abord, les personnes qui sont intervenues directement dans les programmes d'enseignement de leur pays, en retirant carrément l'enseignement darwinien, de la théorie darwinienne de l'évolution au collège. Alors, le cas de Letizia Moratti, ministre italienne de l'éducation du gouvernement Berlusconi en février 2004, qui, par un décret, a carrément interdit l'enseignement de la théorie de l'évolution en troisième et aux élèves de troisième et de quatrième. Cette réforme s'inscrivait dans un contexte plus général de réforme de l'éducation intitulée anglais, entreprise et informatique, donc ce qui en dit long sur leur vision de l'éducation. Finalement, suite à une fronde énorme de la part d'intellectuels, de chercheurs, d'enseignants, ce décret est finalement retiré un an après. Dans le même temps, en septembre 2004, la ministre serbe de l'éducation, Liliana Kolic, qui a également émis le souhait de retirer l'enseignement de la théorie de l'évolution, mais là, quelques semaines ont suffi pour qu'elle démissionne, qu'elle soit contrainte à démissionner suite à ses propos. Mais également des appels au débat ou des contestations de la théorie darwinienne de l'évolution. Alors, par exemple, en mars 2005, ministre hollandaise de l'éducation, Maria van der Hoeven, qui en appelait à un débat public entre les partisans de l'intelligent design et les partisans de la théorie darwinienne de l'évolution, pour montrer au grand public qu'il y avait un réel débat, un débat au sein des scientifiques entre ces deux théories. En octobre 2006, le vice-ministre polonais de l'éducation, dont je ne prononce pas le nom non plus, là, c'est pareil, encore une fois, sa contestation de l'enseignement de la théorie darwinienne de l'évolution s'inscrit dans un contexte général d'imprégnation de l'éducation par des valeurs catholiques. Finalement, ça ne sera pas enseigné, d'autant plus que faisant partie de la Ligue des familles polonaises, donc un parti ultra-catholique, ultra-homophobe, ultra-droite, ultra tout ce qu'on veut, depuis ne fait plus partie de la coalition qui est au pouvoir. Et enfin, plusieurs prises de position de la part de la ministre allemande de l'éducation du Land de Hesse, Karin Wolf, qui, suite à un reportage qui avait été diffusé sur Arte, qui montrait l'enseignement du créationnisme dans deux écoles allemandes de ce Land, donc d'une région administrative allemande, et documentaire suite auquel les parents d'élèves en fait ont été surpris d'apprendre ça et en ont appelé directement à la ministre pour qu'elle intervienne, et elle s'est gentiment excusée en disant non, c'est pas mon rôle d'intervenir, je souhaite que les élèves reçoivent une éducation chrétienne humaniste, et dans ce cadre-là, l'enseignement de questionnement philosophique en cours de biologie me semble être normal, car on devrait enseigner la biologie de manière moderne. Voilà ce qu'elle avait dit. Alors, le cas du Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni, il y a plusieurs organisations qui œuvrent pour l'enseignement et la diffusion du créationnisme de manière générale, mais plus particulièrement une organisation qui s'appelle La Vérité dans la Science, donc organisation très active et très formée de personnes très, très hétéroclites, allant des industriels, des chercheurs, des philosophes, des enseignants, voulant promouvoir un enseignement qu'ils estiment plus pertinent de la science, en envoyant un certain nombre de packs éducatifs, entre guillemets, constitués de films sur l'intelligent design et de divers livrets expliquant pourquoi cette théorie est particulièrement justifiée. Et bon, il n'y a aucun doute sur le fait que cette structure est soutenue par le Discovery Institute, donc comme on l'a vu tout à l'heure, qui est la structure qui porte le dessin intelligent aux États-Unis et qui diffuse beaucoup à la fois de finances et de matériel dit pédagogique à travers la planète. Alors, cette diffusion de matériel soi-disant pédagogique est d'autant plus inquiétante qu'un sondage nous montre en janvier 2006, alors depuis il y en a eu un plus récent, j'ai pas eu le temps de le lire plus en détail, mais bon, il y a 3 ans, 40% des Anglais souhaitaient que le dessin intelligent ou la science de la création soit enseigné en cours de science. Donc, diffusion des idées créationnistes qui se fait sur un terrain plutôt favorable. Et le cas du Royaume-Uni, en fait, est assez intéressant aussi pour les réformes de l'éducation qu'a entreprise Tony Blair. Alors, cette réforme consistait à léguer un certain nombre d'établissements publics à des partenaires privés. Qui ne pouvaient pas augmenter les frais d'inscription ni sélectionner les élèves à l'entrée, mais par contre pouvaient sélectionner les professeurs et étaient libres d'inscrire les programmes qu'ils souhaitaient dans les cours. Il se trouve que certaines de ces écoles ont été prises en main par un chrétien évangélique nommé Peter Vardy, très riche, et qui, lui, est pour l'enseignement du créationnisme, expliquant que les élèves, donc toujours un peu le même discours, doivent avoir les deux types d'enseignement, et qu'après, donc en parlant de la théorie darwinienne de l'évolution et du dessin intelligent, et qu'après, c'est à eux de choisir. Donc là, on parle quand même d'élèves du collège. Donc il se trouve que même si Tony Blair s'est exprimé clairement contre l'enseignement du créationnisme, en parallèle, il effectuait une réforme de privatisation des écoles qui a ouvert des portes directement aux créationnistes. Et en France, donc on peut se poser la question, il se passe tout ça en Europe. En France, quelles sont les positions des... soit des hommes politiques, existe-t-il des structures? Est-ce que la question intéresse véritablement les pouvoirs publics? Alors en fait, jusqu'en février 2007, il faut bien avouer que ça intéressait un certain nombre de groupes de réflexion, d'associations, mais ça intéressait pas vraiment les journalistes, ou alors ils le définissaient toujours comme étant quelque chose de spécifique aux États-Unis ou au milieu anglo-saxon protestant. Mais en février 2007, voilà, il y a l'envoi de l'Atlas de la création à des milliers d'exemplaires. Alors, les cibles étaient liées à tout ce qui participe au transfert de connaissances, donc aux documentalistes, aux enseignants, aux chercheurs, aux proviseurs. Alors, l'Atlas de la création, là, je sais pas, bon, c'est peut-être un peu plus grand sur l'écran que la taille réelle, mais c'est vraiment un ouvrage très conséquent. Un ouvrage de plus de 800 pages, donc qui, d'après l'évaluation de certains spécialistes en édition, coûte au moins 80 à 90 euros s'il était commercialisé. Il a été envoyé gratuitement. Alors, l'auteur de cet ouvrage, de cet Atlas de la création, alors il faut quand même savoir que l'Atlas de la création a été envoyé en particulier en France, mais également dans pas mal d'autres pays, notamment la Suisse, l'Espagne, l'Allemagne, si je me souviens bien, et les États-Unis. Mais comme l'explique son auteur, Haroun Yahya, dont on va reparler juste après, il visait particulièrement la France étant considérée comme le pays laïque par excellence. Si on arrive à déstabiliser le pays laïque, forcément, ensuite, c'est le jeu de domino. Alors, Haroun Yahya, c'est qui ? Haroun Yahya, c'est une organisation particulièrement développée. C'est un Turc qui préside, qui a organisé une structure sur le même modèle que les créationnistes scientifiques américains. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir les mimétismes entre les deux types de créationnisme, hein, alors que l'un est islamiste et l'autre est évangéliste. On retrouve des convergences de discours, les mêmes méthodes, les mêmes arguments contre la théorie darwinienne de l'évolution, et surtout des renvois sur Internet, notamment, c'est flagrant, des renvois d'un site à l'autre. Donc il y a réellement une convergence d'intérêts, en tout cas pour le moment. L'objectif principal de la structure d'Haroun Yahya, c'est de faire disparaître la théorie de l'évolution de l'enseignement et de promouvoir le Coran. Alors, dans un premier temps, en Turquie, mais aujourd'hui, on est carrément au niveau international avec les envois de cet atlas de la création. Et encore une fois, des moyens financiers considérables. Je vous conseille d'aller faire un tour sur donc là, indiqué 200 sites web, hein, c'est incroyable. Vous tapez Haroun Yahya sur n'importe quel moteur de recherche et vous tomberez forcément sur un de ces 200 sites. Et allez y faire un tour parce qu'ils sont particulièrement intéressants. Déjà, ils mettent tout un matériel pédagogique à destination des élèves, et c'est peut-être une des choses les plus dangereuses. Il insiste bien sur le fait qu'il faut mettre en défaut les enseignants, et qui, on l'a vu aujourd'hui à travers certaines interventions, certains peuvent être particulièrement dérangés par des interventions d'élèves qui sont perdus avec tout ce qu'ils peuvent entendre en dehors de l'école. Et sur ces sites internet, on leur apprend à poser des questions qui mettent justement en défaut des enseignants. Il n'y a pas que des attaques qui proviennent de l'extérieur. Il y a aussi des structures purement franco-françaises, et donc pas uniquement islamiques ou islamistes, je ne sais pas, comme certains voudraient faire croire. Il y a des structures qui défendent particulièrement le créationnisme scientifique, donc comme on l'a vu tout à l'heure aux États-Unis. Alors on trouve le CESHE, donc qui est le Cercle d'études scientifiques et historiques, dont le vice-président est Guy Berthaud. Donc Guy Berthaud est un géologue amateur qui a, à travers deux publications dans les comptes rendus de l'Académie des sciences dans les années 80, a réussi à obtenir une caution scientifique pour ses études sur les écoulements des fluides, et qui en fait en tire des conclusions créationnistes sur la réalité, pour faire court, sur le fait que toutes les strates qu'on peut observer n'ont pas eu de besoin de milliards d'années pour se former, mais que c'est sans doute le déluge qui y a contribué. Et donc, il se trouve que ces études-là, aussi farfelues qu'elles puissent paraître, sont utilisées par tous les créationnistes scientifiques de par le monde, ce qui montre l'impact que peuvent avoir certains Français créationnistes sur les mouvements créationnistes de manière générale. Il y a aussi le CEP, donc le Centre d'études et de prospectives sur la science, qui là est dirigé par Dominique Tasso. Alors ces deux associations, CESHE et CEP, revendiquent quelques centaines de membres, mais organisent régulièrement des conférences à travers la France et ont surtout certains liens politiques avec des personnes qui ont des responsabilités. Je pense notamment au CEP, qui est en lien avec un créationniste polonais, encore une fois, un généticien qui s'appelle Maciej Giertych, dont le fils a été ministre de l'éducation justement en 2006, et lui s'est présenté à la présidentielle polonaise en 2005 et fait partie du Parlement européen et est connu pour avoir régulièrement pris des positions, encore une fois, homophobes, antisémites, créationniste directement dans des documents qui circulaient au Parlement européen, même s'il précisait bien qu'il ne le faisait pas en tant que député européen et au nom du Parlement européen. Mais il s'avère quand même que cette personne en particulier a de l'influence au niveau politique. Et enfin, une dernière association, l'association Au Commencement, qui là est une association évangélique, mais bon, toutes les trois ont en commun de faire la promotion de la véracité historique et scientifique du récit biblique de la Genèse, et surtout de toujours bien afficher leur étiquette de scientifique, hein, parce que pour certains d'entre eux, en tout cas, ils sont scientifiques dans des organismes de recherche publique. Je pense notamment au président de l'association Au Commencement, qui se nomme André Héguin, qui est chercheur en agronomie à l'INRA, et qui utilise bien cette étiquette pour présenter ses idées avec la caution scientifique. Et ce qui lui permet aussi d'intervenir dans un certain nombre d'établissements publics, notamment des universités, utilisant cette étiquette, mais les personnes commandant ces universités n'étant pas forcément très regardants sur le contenu des interventions. Voilà. Alors, l'association l'Université interdisciplinaire de Paris, que Guillaume a évoqué brièvement ce matin, alors il y aurait beaucoup à dire sur cette association, je ne vais pas trop m'étendre. Il y a pas mal de choses qui ont été publiées sur le sujet. D'ailleurs, j'en profite au passage pour faire un tout petit peu de publicité. Il y a un article dans le hors-série Télérama consacré à Darwin sur le sujet. Et je conseille la lecture de ce hors-série de Télérama qui est vraiment très bien. Ceci dit, l'Université interdisciplinaire de Paris est une association loi 1901, donc contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, qui a été créée en 1995 par Jean Stone, dont je reparlerai un peu par la suite, qui n'est pas scientifique, mais qui aime bien prendre cette étiquette-là parce qu'il a un DEUG en maths, parce qu'il a un DEA en paléontologie, parce que, etc., qui est une personne qui mélange allègrement ses activités de management, de communication, de science, etc. Il malaxe tout ça pour en arriver à la définition finalement de l'objectif annoncé par cette association, qui est assez sobre, contrairement aux colloques qu'ils peuvent organiser, qui s'intitule « Contribuer à renouer le dialogue rompu par une certaine modernité entre l'ordre des faits et l'ordre des valeurs », donc ce dont Guillaume parlait ce matin, afin de mieux comprendre l'articulation entre les implications de la recherche scientifique et la quête de sens. Présentation assez sobre, même si on détecte déjà tout de suite une confusion des genres entre pas mal de questions qui relèvent soit de la science, soit de, d'un domaine autre que la science, quête de sens n'ayant pas trop de place, comme on a pu le voir ce matin, dans les recherches scientifiques et dans les démarches scientifiques. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils organisent des colloques, des gros colloques dans des lieux assez prestigieux, hein, puisque j'ai pu assister à un de leurs colloques, notamment au Sénat, mais également à l'UNESCO, à la Sorbonne, donc dans des lieux publics. Avec des colloques au nom assez explicite, hein, « Science et religion, une discipline émergente »,« Science et quête de sens », on pourrait citer « Science et judaïsme »,« Science et islam », etc. Où, sous prétexte de dialogue, un certain nombre de scientifiques émérites, prix Nobel mis en avant, pour parler à la fois de leur quête de sens et de faire un mélange... toujours un mélange entre leur étiquette de scientifique, parfois renommée à juste titre, et leur propre questionnement métaphysique. Alors, j'ai mis quelques noms, mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai mis des noms de personnes que vous pouvez croiser dans un certain nombre d'ouvrages, parce que c'est des personnes très médiatiques et qui s'expriment assez souvent, donc leur impact est vraiment assez important. Tring Duan Tuan, astrophysicien, Jean-Marie Pelt, qui intervient régulièrement sur France Inter. Hubert Reeves, Bernard d'Espagna, physicien. Patrice de Plonquette, alors ça c'est un journaliste, ancien rédacteur en chef du Figaro magazine. Donc on voit que cette association brasse un certain nombre de personnes qui, quel que soit leur métier, ont des influences assez importantes au sein de la société. Et Luc Ferry, qui depuis un certain nombre d'années soit a participé à des conférences, soit soutient ouvertement des ouvrages édités par les membres de l'UIP, donc de cette association. Alors cette association a des moyens importants, elle est soutenue depuis maintenant 7 ou 8 ans par, même plus, 9 ou 10 ans plutôt, hein, par la Fondation Templeton. Alors la Fondation Templeton, c'est une fondation pour le progrès en sciences et religions qui dispose d'énormément de moyens. Hein. Tous les ans, ils décernent un prix Templeton justement pour récompenser des scientifiques ou... Des théologiens, des philosophes qui travaillent sur ces histoires de rapprochement entre science et religion. Et le prix attribué est du même ordre, voire plus important, si je me souviens bien, que le prix Nobel. C'est de l'ordre de 1,4 million d'euros, quelque chose comme ça. Donc tous les ans. Ce qui montre bien l'importance des moyens financiers, encore une fois, dont bénéficient ces structures. Alors ces moyens financiers permettent de nombreux programmes internationaux pour le développement de rapprochements entre sciences et religions. Ces programmes sont interconfessionnels, ça c'est intéressant à noter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage par rapport à une religion particulière, ils discutent avec toutes les religions. Ce qui fait que l'UIP donc, a un rôle très important, aussi bien avec des pays de l'Asie du Sud-Est qu'avec l'Europe de l'Est, qui, depuis la fin du communisme, est parti dans une autre extrême, à développer réellement le rôle de la religion, notamment orthodoxe, dans la société pour développer un certain nombre de valeurs. Et donc ce type de programme est particulièrement bien vu et affiché comme étant quelque chose qui contribue au renouveau des valeurs de ces sociétés, notamment un programme avec la Roumanie. Je passe là-dessus. peut pas ne pas parler de l'Église catholique, même si, encore une fois, il y aurait énormément de choses à dire sur les diverses prises de position et l'interprétation de ces positions. On peut le résumer par la position de Benoît XVI, qui à l'époque n'était pas encore Benoît XVI, peut-être bien, je ne sais plus, c'était en 2004, mais je ne sais plus. Peu importe. On peut résumer cette position comme une position finaliste, c'est-à-dire qu'ils acceptent l'évolution, mais l'homme est au bout et intouchable. Alors, un extrait d'une citation de Benoît XVI. Alors, il parle du message de Jean-Paul II, il parle d'une fameuse déclaration de Jean-Paul II en 1996 à l'Académie pontificale des sciences, sur le fait qu'il acceptait le fait que la théorie de l'évolution était désormais plus qu'une hypothèse. Bon, acceptation du bout des lèvres et surtout assorti quelques lignes plus loin de beaucoup de réserves sur notamment ce qui concerne l'âme qui ne peut être que l'œuvre d'un Dieu tout-puissant. Donc, en faisant référence à cette fameuse phrase de Jean-Paul II sur le fait que la théorie de l'évolution est plus qu'une hypothèse, il dit « Le message de Jean-Paul II ne peut être lu comme une approbation générale de toutes les théories de l'évolution. » Donc, il parle des théories de l'évolution, on ne sait pas vraiment de quoi il parle. « Y compris des sens néo-darwiniennes qui refusent explicitement à la providence divine un rôle réellement causal dans le développement de la vie dans l'univers. Bon, » voilà. Donc cette église catholique, c'est vrai qu'on entend pas mal à droite et à gauche des gens dire « Oui, mais aujourd'hui, l'église catholique, c'est plus un problème. Ils ont parfaitement accepté l'évolution, etc. » Et de toute façon, ils n'ont aucun pouvoir et aucun poids. Et ben, là, on a la démonstration que c'est absolument faux. Au Conseil de l'Europe, donc le fameux rapport donc, que j'évoquais au tout début de mon intervention, en fait, il faut savoir que ce rapport donc, qui avait été proposé une première fois en juin 2007 à l'Assemblée, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a été refusé. C'est-à-dire que le rapport n'a pas été adopté hein, à la majorité, bon, pour un certain nombre d'arguments. Et lors de la deuxième proposition, l'Église, donc le Vatican, ou le Saint-Siège plutôt, le Saint-Siège étant l'état politique du Vatican, puisqu'il distingue à la fois, même si dans les faits, il n'y a pas réellement de distinction, mais entre l'état politique et, on va dire, l'état religieux. Le Saint-Siège, donc, qui siège au Conseil de l'Europe, fait passer une lettre à un certain nombre de parlementaires pour faire pression, pour ne pas que le rapport dont j'ai évoqué quelques extraits tout à l'heure ne soit pas adopté. Et donc, en disant, je me permets de vous soumettre avec déférence les réticences de mes autorités sur ce projet. Le Saint-Siège estime que, en ce moment, le mieux serait que ce projet ne soit pas adopté. Je vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir abonder dans ce sens. En fin de compte, le projet incline à une certaine confusion épistémologique. Mes autorités estiment que, dans le contexte européen, un tel document ne serait pas opportun. Voilà, les choses sont claires. Le Vatican estime qu'un rapport qui dénonce, ou le Saint-Siège plutôt, estime qu'un rapport qui dénonce les dangers du créationnisme dans les États européens ne doit pas être adopté. On ne peut pas ne pas citer très rapidement les mouvements à tendance sectaire, les témoins de Jéhovah, qui se revendiquent comme ayant près de 250 000 sympathisants en France. Bon, le décompte est difficile, mais en tout cas, il y a au moins 150 à 200 000. C'est un mouvement très prosélyte, édition de nombreux livres et articles défendant le créationnisme, comme l'image qu'on peut voir, la vie, comment est-elle apparue, évolution ou création. Une diffusion à plusieurs milliers d'exemplaires dans le monde, donc un fort impact, et dans plusieurs dizaines de langues, hein, pour certains ouvrages, plus de 160 langues. Également, l'Église de Scientologie, même si leur position par rapport à... Alors, disons que leur classement dans tous les mouvements créationnistes est un peu difficile, puisque, comme vous le savez sûrement, l'Église de Scientologie est un mouvement créé par un auteur de science-fiction, Ron Hubbard. Et donc, c'est assez difficile de démêler ce qui relève à la fois de la science-fiction, de plus une interprétation théologique ou... Il s'avère quand même que c'est un créationnisme, puisqu'ils font intervenir une transcendance dans leur explication du monde naturel. J'ai indiqué le non-problème, c'était, si vous vous en souvenez peut-être, il y a maintenant un an, directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, qui dit que le cas de l'Église scientologie en tant que secte, c'est pas valable, puisque l'Église de scientologie est un non-problème. Donc, le pouvoir en place considère que l'Église de scientologie n'est pas une secte, que c'est un non-problème, et ils veulent un des objectifs des lobbies de l'Église de scientologie est notamment de transformer le statut de l'Église de scientologie pour qu'elle obtienne le statut d'association cultuelle selon la loi 1905 pour être régie par le même statut que l'Église catholique, l'islam, etc. L'Église de scientologie est particulièrement impliquée dans les structures de soutien scolaire qui s'est développée... À 3 minutes. Ok, très bien. Bon, je finis avec l'Église de Scientologie rapidement. Alors, un rapport de la commission parlementaire sur les sectes qui indiquait que justement le développement du soutien scolaire mettait au jour un grave problème sur le fait que justement ce soutien scolaire n'était pas encadré par le ministère de l'Éducation nationale et qu'un certain nombre d'associations étaient en fait infiltrées par l'Église de Scientologie. Voilà. Alors, je voudrais terminer justement par le fait préciser que le créationnisme, si vous n'en êtes pas encore convaincu, est un enjeu de société, avec un certain nombre de préalables sur les moyens de se prémunir, en tout cas à notre avis, selon à Olivier et à moi, Olivier Brosseau et moi-même, sur le sujet, pour se prémunir contre les attaques créationnistes. Tout d'abord, la loi 1905 sur la laïcité, qui définit les rapports entre les églises et l'État, à la fois pour les scientifiques dans leur, par le fait qu'ils travaillent pour des institutions publiques, mais également pour l'enseignement, pour ne pas mélanger ce qui relève de la croyance personnelle et ce qui relève de ce qu'on pourrait dire des connaissances universelles, mais également surtout la centralisation de l'enseignement. Comme on a pu le voir, une réaction très efficace lors de l'envoi de l'Atlas de la Création. À l'époque, c'était Gilles de Robien, le ministre de l'Éducation, et qui a fait suivre très rapidement une circulaire à tous les établissements pour pas que les élèves aient à leur disposition cet ouvrage. Et la centralisation permet d'éviter des remises en cause locales des programmes, comme ça peut être le cas, par exemple, aux États-Unis ou plus récemment en Allemagne. L'enseignement visé, pas uniquement des ouvrages, je vais faire vite, mais pas uniquement des ouvrages islamiques ou islamistes. Ici, un exemple d'un ouvrage qui n'a pas été très médiatisé, mais qui a été envoyé quand même à 300 ou 400 exemplaires. Ouvrage, l'œuvre de catholique intégriste, cette fois-ci, qui a été envoyé en février 2007 à plusieurs centaines d'exemplaires, de la même manière que l'Atlas de la Création, à des enseignants, à des documentalistes, etc., qui s'intitule « Hommes et femmes, il les créa ». Ouvrage créationniste, homophobe, antisémite, qui traite du problème d'éducation des garçons et des filles. Et alors, ce qui est intéressant dans les auteurs de cet ouvrage, c'est notamment la présence de Christian Van Est, qui est député UMP, et également donc qui s'est exprimé plusieurs fois en tenant des propositions homophobes, et la présence aussi, qui n'a pas été remarquée dans les médias, mais de Monseigneur Henri Brincard. Alors, Monseigneur Henri Brincard, c'est un ami personnel de Dominique Tasso, que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, qui préside l'association du CEP, donc le Centre d'études et de prospectives sur la science, donc créationnisme scientifique, et qui est donc Monseigneur Brincard, qui a ses entrées au Vatican. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui se lient, et que ces gens qui peuvent paraître faire des choses dans leur coin, au final, ont réellement un impact sur la société. Un documentaire sur Arte, sur lequel je ne m'étendrai pas non plus, mais documentaire de la part sur les travaux de la paléontologue Anne Dambricourt-Malassé, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était membre active jusqu'en début 2006 de l'association Université interdisciplinaire de Paris, donc documentaire diffusé sur Arte en prime time, et qui s'est retrouvé sur le site internet du CNDP, donc Centre National de Documentation Pédagogique, donc conseillé aux enseignants de diffuser ce documentaire à leurs élèves. Heureusement, grâce à la vigilance d'un certain nombre de scientifiques et de citoyens, des scientifiques présents ici notamment, il a été rapidement retiré. Voilà. Et bon, je ne peux pas évoquer ça. Je ne peux pas ne pas l'évoquer, plutôt. Jean Stone, donc secrétaire général de l'UIP, encore une fois, qui a présenté ses posters et a participé à un certain nombre d'enseignements dans un lycée suisse. Donc réaliser des conférences, etc. Les élèves participaient à un certain nombre de réalisations de posters, présentant ses travaux qu'il a publiés, un certain nombre de travaux de l'UIP, présentés dans un ouvrage qui avait été publié en 2006 ou 2016, je ne sais plus, « Notre existence a-t-elle un sens ?». Donc on voit l'intrusion de ce genre de personnes à l'étranger pour l'instant, mais comme il le dit lui-même, eux l'ont fait, j'espère bien qu'en France cela se fera aussi dans l'éducation, pourquoi pas nationale. Nous avons déjà des demandes du privé en Seine-Saint-Denis et en Bretagne. J'ai terminé. Je termine avec une citation de Dominique Lecourt, philosophe spécialiste du créationnisme, qui dit « On ne pourrait s'alarmer de cette propagande que si la laïcité de nos institutions d'enseignement et de recherche était mise à mal, ou si des groupes organisés continuaient à se développer dans les médias à cette fin. » Voilà, je vous laisse juge de cette citation, et je termine avec une petite illustration des outils de communication d'Haroun Yahya. On s'est retrouvé avec Olivier Brosseau notre ouvrage sur un des sites d'Haroun Yahya, ce qui illustre ici une de ses techniques de communication qui est quoi qu'on dise sur lui, l'utilise pour lui en fait. C'est-à-dire si on dit que l'Atlas de la Création a été une bombe au sein des lycées et des établissements d'enseignement, il l'utilise pour dire vous voyez, c'est efficace. Voilà, j'ai terminé.
Merci. Bon, on a largement dépassé le temps, c'est la vie. Donc, merci beaucoup de ce rappel historique. Guy Langagne est venu chez nous, donc il nous a parlé du rapport européen lors de la journée, la soirée qu'on a faite sur l'évolution. Et puis, Dominique Lecourt a aussi eu l'occasion de s'exprimer là-dessus. Donc, il y a des questions dans la salle. Il y a des gens qui peuvent encore rester. Vous pouvez rester pour un petit débat. Il y a d'autres personnes qui doivent partir, donc on va laisser 10 minutes pour le débat, si ça ne vous ennuie pas. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ça n'a pas... S'arrêter là.
C'est un complément d'information pour comprendre ce qui se passe à l'UIP, et Cyril pourrait témoigner puisqu'il l'a vu, je pense. À l'UIP, il y a toute une gamme de gens dont certains se défendraient d'être créationnistes au sens, littéraliste. Hein. C'est plus complexe. L'UIP travaille à la confusion entre la dimension collective de la validation des savoirs scientifiques et les prises de position métaphysiques personnelles. On peut dire que c'est une entreprise anti-laïque dans le sens où nous, les scientifiques, vous savez bien, quand on publie, on ne fait jamais état de nos options métaphysiques personnelles dans nos articles. Ça ne passerait pas la barrière des reviewers, comme on dit, de l'analyse de l'article avant publication. Donc nous avons... tacitement, en fait, une déontologie laïque dans le processus de validation des savoirs scientifiques. Quand nous sommes au laboratoire et quand nous publions face à notre communauté, nous laissons nos options métaphysiques personnelles au vestiaire, À la maison, le soir, on peut les reprendre, bien sûr, mais dans le travail, on ne le fait pas. Ce que je crois que ce qui est important de pointer, c'est qu'à l'UIP, précisément, on travaille à la confusion des deux genres. C'est-à-dire qu'en fait, au nom d'une communauté scientifique, et au nom de connaissances publiquement et collectivement validées, les individus se permettent de promouvoir des options métaphysiques personnelles. Cyril, tu l'as vu avec plusieurs des intervenants, je crois.
Oui, oui, et puis je pourrais même rajouter une chose sur le fait que quand on les interroge sur... parce que bon, c'est difficile de résumer les positions de l'UIP à une seule position. Mais bon, mais il se trouve quand même qu'il y a un certain nombre de convergences vers l'intelligent design et un certain nombre d'exposés qui font au cours de leurs conférences sont assez clairs sur le sujet où ils parlent assez régulièrement de designers. Alors après, on leur a posé la question explicitement, mais est-ce que vous êtes partisan du dessin intelligent ? Et là, ils mettent en avant le fait qu'ils ne sont pas un mouvement politique. C'est-à-dire que le dessin intelligent, il n'y a pas de secret, comme je l'ai montré, c'est affiché directement, clairement. Peut-être, je ne sais pas si auprès du grand public américain c'est clair, mais ici c'est clair, c'est un mouvement politique. Voilà, l'extrait du Wedge Document est clair sur le sujet. Mais bon, à travers quelques exemples, j'ai voulu vous montrer qu'en France, ils se gardent bien d'avoir une position politique quelconque, ne serait-ce que sur l'enseignement, sur la laïcité, etc. Mais on voit bien à travers leurs actions, à travers divers programmes, sciences et religions qu'ils peuvent avoir, bah, notamment en Europe de l'Est, mais aussi dans l'enseignement, comme j'ai montré ici avec Jean Stone en Suisse, c'est clair que si le climat devient plus favorable en France, leur objectif, c'est réellement d'imprégner la société. Alors évidemment, leurs moyens ne sont peut-être pas aussi importants que ceux du Discovery Institute aux États-Unis, mais il y a un transparent justement que j'ai passé sur les brèches, ce qu'on appelle les brèches dans l'enseignement et qui peuvent... je suis désolé, hein, je redéborde encore. Mais sur le fait qu'il y a des brèches qui sont creusées dans le bouclier qui nous protège, selon nous en tout cas, du décréationnisme. Quand Nicolas Sarkozy déclare au Latran, et je pense qu'il y a un certain nombre ici de personnes qui sont enseignantes et donc qui ont dû un peu s'énerver en entendant ce genre de propos, dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé dans la radicalité du sacrifice de sa vie. Donc ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas de valeur morale qui existe en dehors de la religion. Et il remet en cause la laïcité même du travail des enseignants dans les écoles publiques. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le plan Espoir Banlieue qui a débuté début 2008, qui a été lancé par Fadela Amara et par Xavier Darcos pour allouer un fonds spécifique qui serait dédié aux établissements privés, dans les banlieues, en fait. C'est-à-dire, on privilégie un certain nombre d'établissements privés au détriment de la mission publique de l'État, qui est normalement d'investir dans des établissements publics. Et puis, la troisième chose, bon, la réforme qui n'a pas été adoptée pour l'instant, mais qui va sûrement revenir dans le prochain package, annonce de la suppression des cours de sciences de seconde. Voilà. Donc c'est un certain nombre de choses qui font que le créationnisme en France n'est peut-être pas aussi visible et aussi radical que ce qui peut être aux États-Unis, en tout cas vu d'ici. Mais c'est clair qu'il y a un certain nombre de brèches qui sont creusées et qui, petit à petit, pourraient permettre à ces idées de proliférer. Voilà. Bon, j'ai encore largement débordé.
Moi, j'aurais une approche beaucoup plus radicale, qui est basée sur les étudiants que j'ai eus qui enseignent maintenant dans le secondaire, notamment autour de Paris, à un point où atterrissent beaucoup de nos jeunes diplômés, évidemment. Il y a une partie de la société qui est complètement baignée quotidiennement, et pas simplement 2 heures par semaine, d'un discours créationniste. En face, il y a des enseignants qui les voient très peu, qui n'ont pas été formés aux sciences de l'évolution jusqu'à ces dernières années, qui maintenant le sont, mais qui pour la plupart nous clament dans les formations continues qu'ils ne savent pas quoi dire sur l'évolution, et encore moins quand il y a des questions surtout préparés très très en amont. On a des élites qui se croient au pays de Descartes, alors que la plupart en fait des gens qui vivent en France ne sont pas ou plus, n'ont jamais été au pays de Descartes. Je veux dire, c'est des gens qui sont dans des logiques différentes, des logiques sociologiques différentes de celles des élites qui écrivent. Et ce que je pense, c'est qu'une grande partie, une génération perdue déjà. Cette génération a un mélange de ceux qui sont perdus parce qu'ils ont reçu les discours créationnistes et de ceux qui n'ont pas reçu de discours très nets autour de l'évolution et qui sont des proies potentielles, mais qui n'ont pas visualisé l'évolution. Moi, je suis beaucoup plus pessimiste. Hein. Et quant à la centralisation, regardez un peu les réformes, vous verrez ce qui va en rester d'ici quelques années. Oui, reste 1905, mais...
C'est juste une information récente qui montre que M. Staub a déjà fait tache d'huile en France et en Bretagne, puisque la semaine dernière, à l'université de Nantes, de Vannes, dans le cadre Université Tous Âges, il y a eu une conférence d'un certain M. Moreau sur l'évolution de l'espèce humaine, une remise en cause du néo-darwinisme. C'était le troisième ou quatrième âge, je ne sais pas comment il faut dire, mais enfin, il y a peut-être moins d'espoir de pour ce qui est de la transmission du savoir à ce niveau-là, mais enfin, ça progresse.
Oui, non, c'est ça. Leur réussite tient au fait qu'ils ont des étiquettes de scientifiques établies. Alors, je ne sais pas qui était ce monsieur Moreau, mais...
Médecin, oui.
Mmh. Oui.
Voilà, la journée finie. Donc, quelques informations. Merci. D'abord, je voulais remercier, applaudir nos intervenants. Pascal Duris, qui est le responsable scientifique de cette journée. Nos intervenants, qui sont extraordinaires. Mario Cotron, de l'UFM, qui a organisé avec nous cette journée, qui fait qu'il y a des gens de l'UFM ici. Il y a même des gens qui sont venus de l'UFM de Montpellier. Donc, nous saluons. C'est vraiment très, 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 très gentil de votre part. Et puis, donc, ça sera une histoire qu'on continuera. On en a parlé avec Yves Sénatiempo, parce qu'on va avoir un pôle éthique aussi à l'Espace Mendès France. Voilà, donc, je vous remercie tous. On a passé une agréable journée. J'espère que vous aussi, vous pourrez retrouver la journée sur notre site internet de l'Espace Mendès France, in extenso, comme on le dit. J'espère pas trop, dans pas trop longtemps, mais on fait ce qu'on peut. De toute façon, on est à votre disposition. On a des adresses mail. Et merci à tous et bonne soirée.